La Noël des assiégés. Discours prononcé au Temple du Saint-Esprit le 25 décembre 1870 par Ernest d'Ombre. Au même instant, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire soit à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. » Saint Luc, chapitre 2, versets 13 et 14. Lorsqu'au lendemain de nos premiers désastres, un gouvernement nouveau fut placé à la tête de notre patrie, il commença par exposer dans un manifeste solennel ses principes, ses desseins, ses espérances. Lorsque nos chefs militaires prirent, il y a un mois, la résolution de tenter un effort suprême pour délivrer Paris et la France, ils adressèrent au peuple et à l'armée des proclamations dont les mâles accents nous émeuvent encore. Le jour où le Christ paraît, une proclamation se fait aussi entendre. Mais ce n'est pas de la terre qu'elle émane, c'est du ciel. Ce n'est pas une voix humaine qui la publie, mais la voix des anges. Ce n'est pas à une nation ou à une armée qu'elle s'adresse, mais à tous les enfants des hommes. Ce n'est pas un changement politique ou une action guerrière qu'elle annonce, mais le paisible avènement de celui qui ne devait verser d'autre sang que le sien. Commentons aujourd'hui, mes frères, la proclamation angélique. Unissons-nous du sein de notre douloureux isolement aux souvenirs et aux adorations de l'Église universelle. Instruits par les paroles de l'hymne céleste, nous verrons la plus grande gloire de Dieu briller au-dessus de la crèche de Bethléem et procéder de cette même crèche une ère de paix et de consolation pour la terre. La gloire de Dieu n'avait pas attendu la nuit de Noël pour se manifester. Elle rayonnait avant les siècles comme la splendeur de son essence, comme le vêtement éclatant de ses perfections. Quelle gloire que celle de l'être infini, éternel, nécessaire, tout-puissant et tout bon. Quelle gloire que celle du Dieu trois fois saint, dans son unité parfaite et dans sa pluralité mystérieuse. Quelle gloire que celle de la vie divine avec son inépuisable durée, avec son majestueux repos, avec ses mouvements, ses mutuels échanges, ses richesses et ses profondeurs incompréhensibles. C'est cette gloire primitive, intérieure, qui se retraçait comme une vision resplendissante au cœur de Jésus lorsqu'il disait, aux approches du dernier sacrifice, « Et maintenant, glorifie-moi, ô Père, de la gloire que j'ai eue auprès de toi avant que le monde ne fût fait. » L'univers apparaît du sein du néant, et la gloire de Dieu brille d'un nouvel éclat en se réfléchissant dans son œuvre. Voici les anges, les premiers sortis de ses mains, les plus rapprochés de son essence suprême, qui assiste continuellement devant lui et s'écrie en se voilant la face de leurs ailes, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Voici le monde et le soleil semés dans l'espace. Voici notre terre avec son dôme d'azur, avec ses continents et ses mers, ses montagnes et ses vallées, avec les milliers de créatures qui viennent l'animer, avec l'homme qui en est le pontife et le roi. Et du sein de la création tout entière, un incessant hommage s'élève vers son auteur. Les cieux racontent la gloire du Dieu fort et l'étendue donne à connaître l'ouvrage de ses mains. Et l'homme animé d'un souffle supérieur mêle à cette harmonie inconsciente une voix plus noble et plus belle, car elle se comprend elle-même. Les siècles succèdent aux siècles, et tout à coup retentit au-dessus de l'obscure Judée ce chant des anges, gloire soit à Dieu au plus haut des cieux. Quel est ce nouveau rayon? Quelle est cette nouvelle splendeur de la gloire du Très-Haut? Vous le savez, mes frères, dans l'enfant de Bethléem, une nouvelle création commence. Une nouvelle humanité vient d'éclore. Ce monde qui avait l'homme pour chef a été entraîné par la chute d'Adam dans le désordre, la souffrance et la mort. En envoyant son Fils au monde, Dieu va reconstruire cet édifice tombé. Il va renouveler son œuvre ruinée. Il prononce une seconde fois la parole créatrice. Faisons l'homme à notre image. Et il relève dans la personne du second Adam les innombrables générations de notre race déchue. Voilà pourquoi les anges, auxquels il est donné d'entrevoir cette merveilleuse délivrance, s'écrient dans ces hymnes immortels qui retentissent et parviennent d'en haut jusque dans notre vallée terrestre. Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux. Et cependant, quoi de moins glorieux en apparence que la naissance du Seigneur ? Nous aurions rêvé tout ce que la terre a de plus grand et de plus magnifique. Et voici tout ce qu'elle peut offrir de plus chétif et de plus misérable. Il fallait à l'enfant divin un peuple. Et Dieu lui assigne le moindre des peuples de la terre, un peuple gémissant sous la servitude, un peuple autrefois béni, mais aujourd'hui tout près d'être rejeté. Il lui fallait un lieu de naissance, et ce lieu ne sera pas Jérusalem, le siège des gloires nationales, mais Bethléem, la plus petite d'entre les villes de Juda. Il lui fallait une mère, et sa mère est une humble vierge de Nazareth, issue de race royale, mais d'une race tombée dans la pauvreté et dans le mépris. Il lui fallait une demeure, et sa demeure sera une humble hôtellerie, et dans cette hôtellerie, la place la plus obscure, l'étable où mugit un vil bétail. Et c'est là que le Fils de Dieu ouvre les yeux à la pâle lumière de ce monde, dans une crèche, sur un peu de paille, par une froide nuit d'hiver, et les premiers visages qui se penchent vers lui sont les figures vulgaires de quelques pauvres bergers, aux humiliations, au dénuement. Et tous ces abaissements extérieurs ne sont en quelque sorte que l'enveloppe de ces abaissements intimes dont un mot de saint Paul nous révèle l'étendue. Il s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Entendez-vous, mes frères ? Il s'est anéanti lui-même. Le Fils éternel de Dieu s'est limité, s'est diminué, s'est dépouillé jusqu'à devenir semblable à nous. La parole a été faite chair. Le Verbe divin s'est fait homme, non pas comme à l'état adulte, dans sa force et sa majesté relative, comme parut Adam, mais homme dans la plus grande faiblesse, homme à l'état d'enfant. Celui dont la voix puissante a tiré l'univers du néant a poussé les premiers cris de l'infirmité humaine. Celui qui donne la vie au monde s'est suspendu au sein d'une femme israélite. Il a traversé les commencements infimes, l'obscur développement de l'existence terrestre, et c'est sous cette livrée d'humiliation que se voile, que se cache, que disparaît, pour ainsi dire, sa divinité. Il s'est anéanti lui-même. Que voyons-nous en lui qui sente le Dieu, s'écrie le grand Bossuet, dans les 30 premières années de sa vie, mais encore dans les 3 dernières qui sont les plus éclatantes, s'y paraît quelques rayons de sa sagesse dans sa doctrine, de sa puissance dans ses miracles, ce ne sont que des rayons affaiblis et non pas la lumière dans son midi. La sagesse se cache sous des paraboles et sous le voile sacré des paroles simples. Et lorsque la puissance étend son bras à des ouvrages miraculeux, comme si elle avait peur de paraître, en même temps elle se retire. Car la véritable grandeur de la puissance divine, c'est de paraître agir de son chef. et c'est ce que le Fils de Dieu n'a point voulu faire. Mon Père, dit-il, est celui qui fait les œuvres en moi, et il semble qu'il n'agisse et qu'il ne parle que par une autorité empruntée. Ainsi, la nature divine devait être en lui, durant les jours de sa chair, privée de l'usage de sa puissance et de cette divine perfection, comme un homme, oserais-je dire, interdit par les lois, qui a la propriété de son bien et qui n'en a pas la disposition. Ô dépouillement, ô abaissement sans nom, il faut le redire pour la troisième fois avec saint Paul, il s'est anéanti lui-même jusqu'à prendre la forme d'un serviteur. Mais quoi ? Cet anéantissement n'est-il pas opprobre plutôt qu'une gloire ? Non, mes frères, non. Car la raison de cet anéantissement, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la plus grande gloire de Dieu. Comme un rare génie se vouerait à former l'esprit le plus humble, et pour cet effet descendrait de ses riches conceptions à sa faible portée, comme un père qui, pour élever son enfant au niveau de sa vie morale, s'abaisserait au niveau de la sienne et consentirait à partager ses préoccupations, ses intérêts, ses plaisirs. Comme ces premiers missionnaires moraves qui, pour évangéliser les esclaves des Antilles, se firent esclaves eux-mêmes. Comme ces éducateurs généreux, ou plutôt à un tout autre degré, avec une réalité et une condescendance bien plus profonde, car parti de beaucoup plus haut, il est descendu beaucoup plus bas. Le Christ, le Seigneur de gloire, est venu jusqu'à nous. Il a vu l'intervalle immense qui s'étendait entre Dieu et sa créature égarée. Il a vu l'abîme non seulement de sa grandeur à notre néant, mais de sa sainteté à notre corruption, et il l'a franchi d'un seul élan de sa charité. Il s'est identifié par une solidarité mystérieuse, mais entière, à notre humanité, et à notre humanité tombée, condamnée, perdu. Il est entré en plein dans sa destinée amère, dans ses souffrances et dans ses hontes, dans sa misère et dans ses châtiments. Il a porté nos langueurs, il a porté nos maladies, il a porté nos péchés. Mais plus il s'abaisse, plus il s'élève, car chacun de ses abaissements est un nouveau miracle de sa charité. Et lorsqu'il aura touché pour nous sauver, le fond de l'abîme, lorsque, plutôt que de nous laisser périr, il aura été fait malédiction pour nous, lorsqu'il aura savouré jusqu'à cette dernière goutte du terrible calice qui s'appelle, au mystère des mystères, le sentiment de l'abandon de Dieu. Dans ses extrémités de douleur et d'opprobre, il sera plus grand que jamais. L'apogée de ses ignominies sera l'apogée de sa gloire, car ce sera l'apogée de son amour. Ange du ciel, qu'il avait vu, dans l'élan de sa compassion ardente, se détacher de vos rayonnantes demeures pour descendre jusque sur notre planète et s'engager dans cette sombre avenue dont le seuil est une crèche et le terme une croix. Je comprends vos transports d'admiration, je comprends vos cantiques d'adoration et de louange. Gloire soit à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. La venue de Jésus-Christ, qui, du côté de Dieu, se résout dans la plus haute manifestation de sa gloire, car elle est la plus haute manifestation de sa bonté, se traduira du côté des hommes par ce bienfait immense. Paix sur la terre, envers les hommes, bonne volonté. Ce ne sont pas ici deux grâces différentes, mais deux noms, deux aspects d'une même grâce. La seconde même, dans l'ordre logique, est antérieure à la première, car c'est cette bonne volonté de Dieu envers les hommes qui est la source de la paix sur la terre. L'état de l'homme éloigné de Dieu, si éloigné qu'il a fallu pour combler la distance, tout le mystère de l'incarnation et de la rédemption, et par cela même un état de trouble, trouble dans ses rapports avec Dieu, trouble dans ses rapports avec ses frères. Aucun de nous n'est, dans sa condition naturelle, en paix avec son Créateur. Ne prenez pas pour la paix je ne sais quel calme apparent, je ne sais quel air de sécurité et de confiance qui n'est que le fruit de l'insouciance et de l'étourdissement de la vie terrestre. Cette prétendue paix, si peu enviable et si peu digne d'une créature de Dieu, est d'ailleurs illusoire et fragile. Qu'une des circonstances toujours si fréquentes dans le cours de l'existence terrestre vienne révéler à l'homme le néant du monde et de lui-même, qu'une maladie lui impose de longues heures d'ennui, d'inaction, de mélancolie et de souffrance, qu'un deuil inattendu ou une grande douleur morale lui fasse sentir l'une des blessures les plus cruelles de la vie, qu'une catastrophe publique ébranle cet édifice général d'ordre et de prospérité dans lequel il s'abritait, la pensée du Dieu dont il dépend si étroitement lui revient aussitôt. Elle lui revient confuse et menaçante. Dieu n'est pas une idée qu'on secoue à volonté, un dogme qu'on rejette à toujours, c'est une réalité avec laquelle il faut compter. Dieu qui nous a fait et pour lequel nous sommes faits se retrace involontairement à nous, chaque fois que se démontre à nos cœurs l'insuffisance des objets qui nous aidaient à l'oublier. Car Dieu a un allié, un témoin au-dedans de nous, la conscience. La conscience qui est comme son reflet au fond de notre être, se réveille à sa voix et nous ne pouvons échapper au trouble dans lequel elle nous jette. Si nous pouvions lui échapper, c'est alors que nous serions le plus à plaindre, car notre endurcissement serait à son comble. L'homme spirituel, l'homme moral serait éteint, serait mort au-dedans de nous. Est-ce là l'état que nous pourrions envier, mes frères ? À Dieu ne plaise, ce serait signer notre irrémédiable dégradation. Laissons donc, à travers les vicissitudes de la vie, la pensée de Dieu nous visiter et nous troubler. Car comment penserions-nous sans trouble à celui que nous avons tant méconnu, tant offensé, et devant lequel notre vie n'est qu'un long oubli, une longue désobéissance, une révolte toujours renaissante. Comment s'opérerait sans trouble cette rencontre entre le Dieu saint et l'homme pécheur, qui s'empare donc de nous cet effroi nécessaire, qui nous poursuive, qui nous tourmente, qui nous accable dans le sentiment de notre indignité. Le connaissez-vous, ce saint effroi, mon frère ou ma sœur? A-t-il jamais fait tressaillir votre âme? Éprouvez-vous les douleurs d'une conscience angoissée et tremblant devant Dieu? Souhaitez-vous ardemment être réconcilié avec lui? Venez alors et prêtez l'oreille à la voix de Noël, car cette voix a dit « paix sur la terre », c'est-à-dire avant tout « paix entre le ciel et la terre », « paix entre le Dieu saint et l'homme qui l'a offensé ». Regardez l'enfant de Bethléem. Dans cet enfant, c'est Dieu qui vient à vous, non en juge, mais en père et en sauveur. C'est l'Éternel qui voile sa sainteté redoutable sous cette tendre et miséricorde image. C'est le maître offensé qui vient au devant de ses serviteurs rebelles et qui, pour les ramener à lui, consent à ses abaissements infinis et à ce sacrifice sans nom. Approchez-vous sans crainte, cœur brisé, il vient commencer et conduire jusqu'à son dernier terme l'œuvre de votre délivrance. Êtes-vous accablé sous un passé de transgression? Voici, il vous les pardonne, gratuitement, par grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous sentez-vous, dans le présent même, hésitant, partagé, retenu par mille liens sous l'empire du mal. Voici, il veut vous donner dès à présent un cœur nouveau et un esprit nouveau. Tremblez-vous pour ce qui vous reste à passer de jour dans un monde plein de pièges. Voici, il vous dit, ta force durera autant que tes jours. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je te conduirai par mon conseil et je te recevrai dans ma gloire. Mon frère, ma sœur, n'est-ce pas là le secret de la paix après laquelle vous soupirez ? Avoir retrouvé Dieu, son principe et sa fin, se sentir réconcilié avec lui, assuré de sa faveur, vivant de sa vie, porté dans ses bras à travers la course terrestre, jusque dans le percail d'en haut. N'est-ce pas être délivré de toute inquiétude et goûter à l'ombre du Tout-Puissant, la sécurité la plus profonde ? Ah ! Laissez là cette paix céleste entrer dans votre cœur et l'inonder comme un fleuve. En quel temps vous fut-elle plus impérieusement nécessaire ? Aujourd'hui, tous vos biens sont menacés, tout est incertain, fragile autour de vous. Tout ce que vous avez de plus cher peut disparaître dans l'ébranlement universel. Oui, tout, excepté le trésor que Noël vous offre, la paix de Jésus-Christ. La paix avec Dieu, la paix avec vous-même, le pardon de vos péchés, le don du Saint-Esprit, le salut de votre âme, le royaume des cieux, la vie éternelle. Quand la paix de Dieu remplit nos cœurs, mes frères, et se répand comme un parfum tout autour de nous, et rayonne doucement dans toutes les sphères de notre vie, et nous l'apportons comme une disposition naturelle et permanente dans nos rapports avec nos frères. Hélas, le péché est une puissance active de division. En séparant l'homme de Dieu, il sépare l'homme de l'homme. Lorsqu'il n'y a plus entre nous et le Père commun une relation filiale et vivante, comment y aurait-il entre nous et nos semblables une relation vraiment fraternelle ? Arrêtez un instant vos yeux sur les sociétés humaines. Que de conflits, que de luttes, que de rivalités, que de jalousies, que de défiance, que d'animosité, que de discorde, que de haine. Les intérêts, les convoitises, les passions se croisant, se heurtant et se contrariant sans cesse sont une cause permanente de disputes et d'hostilité. Les lois répriment certains excès. Les convenances arrêtent certaines manifestations, la politesse voile sous des formes bienveillantes, la malice t'écœure, mais le fond n'est que désunion, discorde. C'est ce fond même qui doit être changé, mes frères, et il ne peut être changé que par l'Évangile. Il faut que l'homme réconcilié avec Dieu soit par cela même réconcilié avec ses frères. Il faut que l'égoïsme soit attaqué dans sa racine, car n'aimer que soi, comme l'a dit un grand écrivain, c'est haïr les autres. Il faut que, vaincus par les compassions éternelles, nous sentions que les mêmes compassions enveloppent tous les membres de la famille humaine et que nous les éprouvions nous-mêmes pour eux. Il faut que la charité de Christ, passant en nous, nous fasse comprendre la justice, la beauté, l'attrait de ces divins préceptes. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur aussi vous-même. Que chacun n'ait pas seulement égard à son intérêt particulier, mais qu'il ait aussi égard à celui des autres. Que toute animosité, toute crierie, toute médisance soit bannie du milieu de vous. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ah ! Si nous étions pénétrés de ces paroles, si nous étions pleins de l'esprit qui les a dictées, ne comprenons-nous pas que tout sentiment de malice naissant dans nos cœurs se fondrait aussitôt sous les tièdes haleines de l'amour chrétien. Mes frères, regardez le nouveau-né de Bethléem endormi dans sa crèche. Ah, si la seule vue d'un enfant dans sa simplicité, dans son innocence, dans sa douceur apaise notre âme, que sera-ce si nos yeux se portent sur l'enfant céleste? Quelle sérénité, quel calme l'environne, comme son sourire aussi pur que le ciel réprime en nous tout orgueil, toute convoitise, toute passion, toute haine. Comme autour de son humble berceau semble retentir la parole des anges, paix sur la terre. Ce tout tableau, mes frères, nous voudrions l'offrir en ce saint jour, non pas seulement aux hommes, aux familles, aux classes de la société, tentées de se haïr et de se maudire, mais aux nations qui s'entre-déchirent dans une guerre impie. Ô mon peuple, repens-toi de t'être laissé entraîner à cette lutte insensée et criminelle. Et vous, frères allemands, repentez-vous plus encore de l'avoir poursuivi avec fureur lorsqu'il vous était possible de l'arrêter. C'est de vous que nous avions emprunté la touchante coutume des arbres de Noël, comme nous aimions à enrichir notre esprit de vos grandes pensées philosophiques et à rêver de l'infini en écoutant les accords de vos symphonies majestueuses. Hélas, dans cette année funeste, nous offrirons aucun arbre de Noël à nos enfants dispersés ou tristes comme nous-mêmes. Mais vous, peuple allemand, aurez-vous le courage de dresser ce poétique symbole de joie et de paix? Où donc vous réuniriez-vous autour du sapin étincelant de lumière et tout chargé de témoignages de tendresse? Serait-ce sur cette terre de France où vous avez entassé les deuils et les ruines? Mais ici, le sol fraîchement remué recouvre mal des milliers de cadavres. Là gisent des débris encore tout fumants. Serait-ce dans ce camp formidable d'où vous vous apprêtez à jeter sur une cité, pour vous si hospitalière, une pluie de fer et de feu? Serait-ce dans votre patrie où tant de foyers sont déserts et où vous avez fait verser tant de larmes aussi amères que les nôtres? Mais partout la voix de l'enfant divin arrêterait vos adorations sacrilèges. Partout vous l'entendriez vous dire: ne célébrez pas la fête des âmes pures, ne préparez pas vos dons, n'allumez pas vos joyeuses lumières avec des cœurs pleins de haine, avec des mains souillées de sang, vous profaneriez l'arbre mystique, l'arbre de la concorde et de l'amour. Je m'arrête car je craindrais de m'abandonner à des sentiments trop amers. Et pourtant, la parole de Noël demeure, paix sur la terre. Ah, si elle retentit à l'heure présente comme un anathème sur vous et sur nous, qu'elle retentisse aussi comme une espérance sur la terre attristée. Quoi qu'il en soit, c'est une parole divine et elle aura son accomplissement. N'en voyons-nous pas poindre l'aurore dans l'influence bienfaisante déjà exercée par l'Évangile, sinon pour empêcher la guerre, du moins pour en adoucir les mots? N'est-ce pas l'Évangile qui, au moment où le génie de la destruction déploie toutes ses ressources, contraint par une impulsion irrésistible, le génie de la charité a déployé toutes les siennes? N'est-ce pas l'Évangile qui a suscité dès le premier jour, entre l'humanité et la guerre, une lutte bénie dans laquelle le dernier mot doit rester à l'humanité? N'est-ce pas l'Évangile qui a fait surgir dans la protestante Genève cette admirable société internationale qui va relever sur les champs de bataille toutes les victimes qui tombent sans distinguer les amis des ennemis? Et n'avons-nous pas vu, chaque fois que les armées se sont rencontrées dans un choc sanglant, l'armée pacifique des chrétiens s'avancer avec la bannière de la croix pour recueillir les blessés et les entourer des soins les plus tendres? Contradiction sublime entre la haine et l'amour, entre le mépris et le respect de la vie, qui finira par anéantir l'un des termes, et par rendre la guerre impossible, tant la guerre paraîtra monstrueuse. Dans cette espérance, chrétiens, approchons-nous ensemble de l'autel de la réconciliation et de la paix. Venons-y, l'âme pleine de repentir, de foi et d'amour, et que la communion dans laquelle nos cœurs vont se confondre en s'unissant au cœur de Jésus-Christ soit l'image anticipée de cette communion plus vaste qui doit rassembler un jour dans un même corps tous les membres de la famille humaine.